Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage, 2 heures où avec les meilleurs journalistes de la rédaction, nous chevauchons à cru sur la grande plaine du savoir.
Tu parles bien quand tu veux.
Certes, et surtout sans en faire des caisses, sobre toujours. Nous voici donc à l'orée de 2 heures d'une lutte féroce, impitoyable, au service de votre culture G. Qui vous offrira l'info la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante, qui sera élu chroniqueur du jour, vous votez via Twitter. Ma complice Eva Rock relayera vos votes avec plaisir. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le week-end fut bon, vous avez encore clubé hier soir?
Et résultat, je rentre à 9h30, je suis ivre morte. Oui de merde.
On ne se refait pas ma vieille. Heureusement, on reçoit aujourd'hui un comédien merveilleux qui va vous requinquer Eva, car son énergie est légendaire. Et en plus, visiblement, c'est un ami à vous. En tout cas, sur le chemin d'Europe 1, il vous a passé un coup de fil.
Je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon.
Allô Eva, c'est moi.
Eva, si tu décrochais s'il te plaît. Non, d'ailleurs, tu décroches. Eva, bon, d'accord, t'es dans le coltard. Eva
vous a finalement, elle vous, souvenez-vous, vous avez oublié, mais elle vous a finalement répondu à 15h.
Alors? Ah, quand même, t'es seule?
Attends, je regarde.
Alain? Julien?
Ouais, ça passe déjà.
Minou?
J'espère qu'il sort pas de prison, celui-là, au moins.
Si tu crois qu'on a eu le temps de parler. Bon, allez, laisse-moi finir ma nuit, on se voit ce soir au petit déj.
Vous l'avez compris, Patrick Timsit est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour. Mais c'est vrai.
On ne se connaît pas.
Hein, le coup de fil dans la voiture, décapotable. Et avec la double vie, en fait. Fait un petit strip.
Dans cette
de
scène,
se
tout
changer.
Est écrit ou il y a de l'impro de votre part?
Non, tout est écrit.
Tout est écrit, Adeline Prêt. Ah, bah, en tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre un extrait de ce film. Pour moi, c'est un film vraiment culte
et
de
si
ma génération.
Et si tu dis pas le titre, les gens vont pas savoir.
Pédale douce, mais qui ne connaît pas Pédale douce, c'est
bien sûr.
Patrick Timsit, vous êtes à l'affiche du nouveau film de Géraldine Nakache, J'irai où tu iras. On sait que vous prenez beaucoup de plaisir sur scène, Patrick, mais le cinéma, surtout quand c'est avec Géraldine Nakache et Léla Becti, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, ça a été un magnifique rendez-vous, puisque maintenant, alors, je joue les rôles de papa, puisque je suis le papa de Géraldine et Leïla. Il a fallu l'accepter tout de suite, ce que j'ai fait immédiatement. Non, j'ai aucune gêne. Je rêvais d'aimer le scénario quand elle me l'a proposé. Je l'ai lu très vite et c'était oui, parce que j'avais vraiment l'impression aussi de connaître ce papa, le papa qu'elle me proposait.
Alors justement, on va en parler de ce papa, on parle de ce film. Mais d'abord, Patrick Timsit, je vous présente les journalistes en compétition aujourd'hui. À ma gauche, elle n'est justement pas taillée pour la compétition, spécialiste environnement, trop idéaliste, trop tendre, le genre à dire que l'important c'est de participer. Bref, elle aurait justement besoin d'être coachée par Leïla Becti.
Pardon, j'ai pas entendu. On
veut juste participer.
Participer, fils de pute.
Ça va pas.
Ça va pas quoi.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour à tous.
Cet après-midi, vous allez gagner, Anne, je vous le dis.
Oui.
Et comment? En nous parlant des freegans. C'est comme des vegans, mais en pire, c'est ça?
Ah oui, alors dans free, il y a gratuit, dans freegan, on les appelle aussi des déchétariens, avec le mot déchet. Donc c'est un régime un peu particulier, très engagé, très militant. Je vais vous emmener à la rencontre de Jenny, qui a 24 ans, qui est freegan, justement. Vous allez voir, c'est très étonnant.
À ses côtés, Patrick Timsit, comme
pour moi, c'est Anne qui va gagner.
Déjà, l'invité prend déjà partie.
Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin.
À ses côtés,
excellent.
Patrick. Comme un double inversé d'Anne Le Gall, l'un des êtres les plus malfaisants, les plus fourbes qu'il vous sera donné de croiser dans la rédaction d'Europe 1. Ivre de lui-même depuis son dernier thé dans Télérama, Nicolas Caro, notre spécialiste littéraire, n'envisage jamais la possibilité qu'un autre journaliste puisse le battre. Pour lui, il ne peut qu'essayer.
Eh oui, enfin, il essaye parce qu'en fait, il est nul.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Nicolas?
Je vais vous parler des inédits, des romans inédits. On a eu celui de Françoise Sagan il y a 2 semaines. Et moi, je vais vous parler de celui de Proust qui arrive la semaine prochaine, et puis de Dumas, et puis de Salinger.
Des genre, on a trouvé un nouveau roman
excellent,
de Dumas.
Il peut gagner.
Il peut gagner aussi.
Il peut gagner. Excellent, excellent.
Il peut gagner. Très serré aujourd'hui. Voilà pour le programme L'Équipée Sauvage. C'est parti.
Europe 1, L'Équipée Sauvage.
C'est donc Patrick Timsit qui nous accompagne cet après-midi sur Europe 1 pour la sortie d'un film que je vous recommande chaudement. Non pas le biopic de Céline, qu'on attend tous aussi avec impatience, mais le dernier film de Géraldine Nakache avec Leïla Becti, et où vous incarnez Patrick, le père de ces deux filles, très différentes l'une de l'autre dans le film.
Oui, oui. En même temps, elles sont faites du même bois. Hein. Elles ont une sensibilité qui est complètement, pour moi, identique, parce que la même vie, c'est un père veuf, donc elles ont perdu leur maman probablement très jeune. Mais deux voix tellement différentes, deux formes, je dirais, deux enveloppes qui sont complètement à l'opposé. L'une, c'est Leïla, qui est infirmière, qui s'occupe de personnes âgées. Alzheimer, et l'autre est dans les paillettes, et même dans l'ombre des paillettes, je dirais, puisqu'elle veut être, choriste. Ce que je ne comprends pas, d'ailleurs, Leïla. J'adore quand elle lui dit, mais enfin, comment tu peux rêver d'être derrière la chanteuse, quoi, tu vois, c'est pas possible. On rêve d'être chanteuse, pas d'être derrière, enfin, dans l'ombre et tout. Voilà, et c'est vrai que il y a tout cet esprit familial et puis l'histoire qui va être racontée par le film.
C'est la question qu'on se pose quand on voit le film. Est-ce qu'il y a du Patrick Timsit dans ce rôle? Est-ce que vous êtes un père comme ça ou pas du tout? C'est juste un pur rôle de composition.
Il y a trop de Patrick Timsit dans ce film. C'est ce qui m'a permis, ce qui m'a gâché la projection, la première projection. J'étais sans le vouloir, ouais. Oui, quelque part, on finit par... Est-ce que c'est mon âge qui veut ça? J'avais du... Alors, je pense qu'il y a du papa de Patrick Timsit.
Ah oui, c'est ça. Europe 1. L'équipe est sauvage continue et on va entrer de plein pied dans la compétition avec un moment intéressant en perspective. Anne Le Gall, grande icône verte d'Europe 1, qui pour s'endormir à ses enfants leur chante
« La pollution, ce n'est pas bon »
va nous parler d'une nouvelle tendance qui va encore plus loin que les véganes, les friganes. Elle va certainement nous en dire du bien. Faudra pas venir vous plaindre, Anne, quand à l'adolescence, vos enfants prendront des mesures extrêmes.
Mais vous êtes complètement fous, c'est vous qui avez volé le repas.
Mais on l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle. On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qu'ils mangent que des pilules chimiques.
Alors, ok, mais essayons d'être nuancés quand même. Nuancés.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures d'une compétition normalement sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Normalement, car voici Anne Le Gall. Notre spécialiste environnement, la Bernadette Soubirous du bilan carbone. Elle n'est qu'amour, respect de la nature et de son prochain. Jetée dans cette compétition contre des concurrents prêts à tout, sans éthique, comme Angèle Châtelier, notre chroniqueuse musique, qui n'a pas hésité l'autre jour à tomber la chemise pour séduire l'invité. Elle essaye de suivre, mais on sent bien quelle force sa nature, Anne.
Il fait chaud, hein?
Bah grave, je me déshabille, pardonnez-moi.
Elle essaie de séduire l'invité, elle se déshabille. Bon bah je vais remonter mes manches.
Ah c'est super Anne. On vous connaissait les véganes, Anne, le gars.
Oui.
Mais là vous nous faites découvrir les friganes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors les friganes, ça va peut-être vous rappeler un rôle justement. On parlait de la crise de Colin Serrault. Ça va peut-être vous rappeler un peu le rôle de Michou. Bah, ce SDF attachant, un peu envahissant justement, qui était allé chercher les restes du repas jetés par les enfants du député et dans les poubelles. Alors là, je vous propose une rencontre avec une jeune femme. Michou était dans la nécessité, il le faisait vraiment par besoin. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Eugénie. Eugénie, elle, récupère aussi de la nourriture invendue à la fin des marchés. Mais à la différence de Michou, elle n'est pas du tout dans la nécessité. C'est par militantisme. Elle a 24 ans. Elle est diplômée de Sciences Po et d'une école de design. Elle a un travail, un salaire, aucun problème d'argent.
Une bourgeoise, quoi.
Et pourtant, quand elle va au marché le dimanche à Paris, elle y est encore allée hier, c'est pour récupérer des fruits et légumes que l'on a jetés.
Les vendeurs vont laisser après leurs étals en train de remballer, ils vont tout laisser dans la rue, dans les cagettes, avant que les poubelles passent. Et là, en fait, moi, je récolte tous les fruits et les légumes. S'il faut, je coupe si c'est un peu moisi. Je récupère, en général, c'est totalement comestible. Et donc, en fait, je mange uniquement des fruits et légumes invendus. Je n'achète jamais de fruits et légumes. Je suis pas la seule à faire ça, il y a plein de gens, il y a plein de types de gens. Il y a des mamans, il y a des personnes âgées, il y a des personnes isolées, il y a des étudiants, il y a plein de gens. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment une vie après le marché aussi.
Donc c'est vraiment pas une démarche isolée, c'est ça qui est important de souligner.
Voilà, au-delà des personnes en situation de précarité, effectivement, Eugénie fait partie de ces consommateurs qui ont choisi de se nourrir avec des invendus pour dénoncer le gaspillage. Elle fait donc partie de ce qu'on appelle les friganes, donc ceux qui mangent gratuit, ou les déchétariens. C'est un mouvement militant qui est né aux États-Unis il y a 20 ans. Et il y a certains restaurants d'ailleurs qui sont nés sur ce concept, qui ne cuisinent que des invendus. Il y a le Refettorio à Paris, il y a le Frigan Pony, donc on cuisine que des invendus. Et c'est un mouvement qui est resté d'actualité parce que l'Union européenne veut réduire d'un tiers le gaspillage alimentaire d'ici 10 ans. Et ce mode de consommation, donc très militant, très engagé, a quand même le mérite de faire réfléchir à ce que l'on jette, puisque je rappelle quelques chiffres.
Un tiers de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée. Aux États-Unis, c'est même la moitié de la nourriture produite qui n'est jamais consommée. Chaque Français jette chaque année 20 kilos de nourriture à la poubelle, dont 7 kilos encore emballés. Et ce sont effectivement les fruits et légumes qui sont les plus gaspillés.
Anne, votre chronique est édifiante, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais Nicolas Carreau fait des mous bizarres.
On a l'impression qu'il n'est pas d'accord.
Non, mais juste, si on se met tous à manger les invendus, bah on en vend moins, donc il y a plus d'invendus, on s'en sort pas.
Votre perfidie, c'est tout simplement écœurant ce que vous dites, Nicolas Carreau.
On peut aussi produire justement, produire la bonne quantité, okay. Ça peut être pas mal.
Ça les rend végétariens de toute façon, parce que récupérer les invendus en poisson et en viande, là,
c'est plus compliqué.
Oui. Là, absolument. Donc,
enlever le moisi, c'est
pas un choix. En fait. Ils sont végétariens, obligatoirement végétariens. Donc. Et juste pour parler de la crise de seconde, c'est vrai que Colline Serrault était carrément avant-gardiste. Mais, quoi. Elle était visionnaire. C'est un film qui était qui est 91, je crois, et pour l'avoir revu récemment, parce que je le présentais comme ça, et là, il y a cette scène, et Michou mange. L'accessoiriste avait été extrêmement gentil, parce qu'il me dégraissait quand même la main en disant tu manges, mais de ce côté-là, hein, je t'ai enlevé un peu de graisse, et puis vraiment, j'ai mis, il y avait des toasts au foie gras, j'ai mis un petit pâté light parce que vous passez la nuit à bouffer. Surtout avec Colline Serrault, c'est 40 prises par grosseur. Je veux vous dire que c'est des séquences, là, c'est des scènes terribles. Et Géraldine Nakache, pour dire, et son frère se faisait régulièrement les dialogues de... Elle connaît les dialogues de la crise.
Sur le tournage de votre film.
Mais quand ils étaient bons, il paraît qu'ils saoulaient leurs parents avec ce film. Je peux en parler. Moi, j'étais juste comédien. C'est Colline Serrault, vraiment visionnaire, avant-gardiste, vraiment un vrai regard.
J'ai l'impression que cette chronique, Anne, a tapé dans l'œil de Patrick. Ça sent bon les points. L'équipe est sauvage se poursuit. Chaque après-midi, nous désignons l'employé modèle du jour, le journaliste dont le sujet vous aura le plus captivé. Et on affiche ensuite un portrait de lui dans l'open space. Oui, Patrick.
Vous ne seriez pas un petit peu communiste?
C'est vrai, il y a de ça, il y a de ça. Après la camarade Le Gall, ce sera au tour du camarade Carreau de vous présenter le fruit de ses recherches.
C'est une contrepétrie, non?
Même pas. Quand Nicolas m'a dit qu'il allait nous parler du dernier Sagan et du nouveau Proust, j'ai pensé qu'il se foutait un peu de notre gueule, mais vous allez voir qu'en fait, non.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Des zygomatiques bien souples, c'est important, mais un cerveau musclé aussi. Chaque après-midi sur Europe 1, on s'occupe des deux. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 se succèdent au micro pour vous abreuver d'infos palpitantes qui feront de vous le roi de la machine à café sous l'œil d'invités qui nous surprennent à chaque fois, c'est vrai Eva. Par leur énergie, comme Éric-Emmanuel Schmitt.
Chaud comme une baraque à frites.
Sacré Éric-Emmanuel. Soit parce qu'on les imaginait tout sage, tout timide et qu'on avait tort, comme Bernard Werber, à qui je disais avant l'émission, bon Bernard, va falloir y aller, hein, dynamique. Et qui me répondait,
ok, je te promets du sang, de la chic et du molard. Ma chatte, elle est nymphomane et narcissique et mégalomane.
Mais calme-toi Bernard. Aujourd'hui, que va-t-il se passer? C'est Patrick Timsit qui nous accompagne jusqu'à 18h pour la sortie d'un film qui doit vous tenir à cœur, Patrick, J'irai où tu iras, où vous incarnez le père de Leïla Bekti et Géraldine Nakache. Est-ce que le fait d'avoir aussi deux enfants, deux garçons en l'occurrence, si je ne me trompe pas, ça vous a aidé à vous identifier avec ce papa?
Non, mais j'ai fait quelques avant-premières et beaucoup de gens identifient ou leur père ou s'identifient en tant que parents. Mais oui, il y a ce côté papa poule. Vous savez ce que c'est qu'un père juif? Une mère normale. Donc forcément, je connais bien ça, ce petit sifflet. Nous, on a un sifflet familial, par exemple. Mais du coup, les enfants sont libres dans les supermarchés, puisque vous allez de rayon en rayon, quand vous entendez le... Vous pouvez manquer immédiatement. Vous savez que c'est le père qui appelle, comme dans le nid, vous voyez, avec l'oisillon qui redébarque. Donc tout ça, je connaissais. Et c'est aussi, bien sûr, le papa de Géraldine, mais de nombreux
que
pères.
Que vous avez rencontré, je crois, le papa de Géraldine, vous l'avez rencontré pour préparer le rôle ou comme ça, incidemment?
Non, comme ça, incidemment. Mais enfin, quand on rencontre, on ne sait pas qu'on prépare un rôle, mais on pique de toute façon. Moi, je suis un curieux, donc toujours à piquer sans le savoir.
Justement, Géraldine Nakache, comment elle vous a dirigé, parce que je sais qu'elle est fan de vous, ça doit être compliqué de diriger, enfin quand on vient vous chercher, on vient chercher Patrick Timsit, ça doit être compliqué de lui donner des ordres, lui dire non Patrick c'est pas comme ça que je le veux, non elle a pas eu de problème, elle a...
Pas aucun, alors elle... tant mieux, il faut se sentir justement cadré, elle a un vrai regard, c'est une réalisatrice, elle a une histoire à raconter, et elle va prendre après des choses aussi que vous pouvez proposer sans le savoir d'ailleurs, on joue, on interprète, on sait même pas, enfin moi je sais même pas ce que je fais, je suis dedans, et puis après elle me dit dit ça va pas, on corrige ça, si on allait vers ça, tiens, reprends-moi ça.
Au sujet de Géraldine Nakache, vous dites, à l'image des femmes réalisatrices avec qui j'ai travaillé, elle est venue chercher chez moi des choses intimes qu'on me demande peu ou pas au cinéma. C'est quoi ces choses intimes qu'on vous demande peu? Parce que pour moi, ça fait longtemps que vous n'êtes plus qu'un humoriste. Enfin, vous avez incarné toutes sortes de rôles, parfois très... très profond, très dur, dans le drame.
Ouais, donc, ouais.
Qu'est-ce qu'elle est allée chercher chez vous?
Ben, de temps en temps, je ne sais pas, mais quand elle parle de moi, je regarde, je suis extrêmement surpris. Elle dit, regardez, ça se voit, vous voyez, la fragilité derrière ça. Ben, on voit qui c'est, quoi, on voit le cœur. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Je suis là, peut-être très, avec une carapace, peut-être très en protection, finalement, sans m'en rendre compte. C'est vrai que Colline Serrault, la tendresse, la naïveté de Michou, j'avais pas donné, j'ai passé deux castings. Moi, le premier, j'ai été extrêmement mal élevé. J'étais en larmes après avoir lu le premier scénar en disant, mais c'est le rôle. Mais elle me le donnera pas. Donc, j'y ai été, mais très très mauvais élève, un peu comme l'histoire du cric. Vous savez, le mec, il crève dans la nuit, un pneu, hein, bien sûr. Mais, et puis, il cherche un cric et il a vu un garage dans la nuit. Puis il dit, mais je vais pas, 2h du matin, cet enfoiré, il va m'envoyer balader. Jamais il me prêtera un cric, il a pas de cric. Il va, il sonne à la porte et le garagiste dit oui monsieur, il ouvre la fenêtre, il allume la lumière, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et l'autre lui dit, ton cric, tu peux te le foutre au cul. Et vraiment, j'étais tellement remonté que j'ai décrit un Michou complètement profiteur. Et elle me dit, mais il est quand même gentil, ce Michou. Mais c'est de la naïveté. C'est... En sortant, j'ai dit, mais quel prétence-lard. T'es vraiment un prétence-lard. Enfin, t'es un génie, mais elle l'aurait pas vu, quoi, si tu lui avais donné ça. J'ai dit, mais tu te fous de qui? Et puis elle m'a laissé repasser une deuxième fois le casting. Voilà. Et elle m'a dit, t'as bien fait, c'est toi. Donc, Géraldine, allez chercher aussi de. Moi, j'appelle ça du rien. Mais en fait, c'est du tout, quoi. C'est du. Il n'y a pas à composer. Elles sont là et elles viennent chercher à l'intérieur.
L'importance de l'œil des réalisatrices dans la carrière de Patrick Timsit. Il est à l'affiche de J'irai où tu iras. Patrick Timsit est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, une émission qui fait du bien à tout le monde, sauf à Eva Rock. Eva, ma sparring partner, mon âme sœur et d'année à la fois. Eva, à qui j'ai voulu dire vendredi, entre deux vannes, qu'en fait je l'aimais. Mais, même hors antenne, j'ai encore réussi à faire un lapsus.
C'est n'importe quoi.
Il y a des gens qui croient que je l'aime, qu'on se déteste.
Ah, t'as dit que je l'aime, mais tu vois, tu t'es rattrapé.
C'est le même sentiment.
Mais oui, ouais, c'est un sentiment.
Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est... Si on parlait plutôt de littérature, c'est dingue. Figurez-vous qu'on a découvert des inédits de Sagan et de Proust. A tout de suite, vite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2h pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre au service de votre culture G. Une compétition normalement régie par un code très strict, puisqu'un huissier de justice veille au bon déroulement du jeu. Bon, sauf vendredi dernier où il avait posé une RTT. Le con. Je tiens à préciser à notre invité Patrick Timsit que ce que vous allez entendre est un fait rarissime. D'habitude, ici, c'est un concours sérieux.
Donc, Nicolas Caro recevra mes trois.
Merci.
Je ne mets pas en cause votre choix, Bernard Werber, mais je me permets de signaler que l'attaché de presse de Bernard Werber n'est autre que la femme de Nicolas Caro.
Qu'est-ce que vous avez contre la corruption?
Je m'en fous, je prends les trois points quand même.
Nicolas Caro, vous êtes notre expert littérature. Vous avez actuellement 14 points à votre compteur, dont 11 valides et 3 extrêmement discutables. On vient de l'entendre, que la FIFA peut vous retirer à tout moment. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, sachant que l'attaché de presse de Patrick Timsit n'est pas votre femme et espérons pas votre maîtresse non plus, enfin, jusqu'à nouvel ordre, non.
Nicolas. Beaucoup discuté quand même.
Oui, ça. On embrasse votre femme, Nicolas. Vous nous parlez des inédits des grands écrivains.
Mais oui, parce qu'on a eu l'inédit de François Sagan, Les Quatre Coins du Cœur. En fait, on entendait parler d'un livre mystère depuis le mois de juin. Personne ne savait ce que c'était. On savait que c'était chez Plon, que c'était un romancier, que ça serait tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. On avait enquêté un peu à l'époque. Moi, j'avais pensé à Jean d'Ormesson, mais non, sa fille m'avait juré que non, c'était pas lui. Et finalement, donc, c'est Françoise Sagan. Mais un inédit de Sagan, vraiment, on ne pouvait pas s'en douter parce que rien n'avait filtré jamais. En fait, c'est un texte inachevé. Moi, j'ai adoré. Mais il y a un gros débat sur ce texte parce que, si vous voulez, c'est le fils de Françoise Sagan qui a retrouvé ce manuscrit dans tous les papiers de Françoise Sagan. Mais c'était des photocopies. Il y avait deux morceaux. Il croyait que c'était deux textes. Finalement, en les recollant, il s'est aperçu que c'était un seul grand roman. Mais il y avait des redites, des trucs comme ça. Il l'avait proposé à un grand éditeur qui est Jean-Marc Roberts il y a plusieurs années, qui lui avait dit « Écoute, non, faut pas faire ça à ta mère, c'est pas bien. Ça lui rendra pas hommage. » Et puis, le fils a retravaillé.
Pas eu besoin de payer Denis
Westhoff. Mais non, pas vraiment. C'est pas sûr, justement. Il a retravaillé, il a enlevé les redites, il a nettoyé un peu, tout en gardant évidemment que le texte de sa mère, et il l'a fait éditer chez Plomb. Et moi, je trouve ça superbe. Il y a des saillies magnifiques qu'on on retrouve vraiment Françoise Sagan, mais il y en a d'autres qui disent attention.
Il y a eu un livre aussi dans cette histoire-là, non, d'Albert Camus. Le premier homme, où c'est la fille d'Albert Camus qui a
inachevé le texte.
C'est pareil, c'est inachevé en fait.
Mais c'est inachevé.
Il ne faut surtout pas le lire comme un nouveau grand roman de Sagan, évidemment.
Pardonnez ma candeur, mais quand vous dites c'est inachevé, c'est-à-dire que ça s'arrête page 122, ou ça veut dire que c'est inachevé au sens ça n'a pas été relu,
ça n'a pas été raboté.
Il y a quand même un début, un milieu, une fin.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas abouti.
On sait qui a tué, quoi. Il vaut mieux ça, quoi. Un Hitchcock.
Moi je le trouve superbe ce livre, Les Quatre Coins du Cœur, ça fait plaisir de le retrouver. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les inédits. Et c'est pas juste des histoires dessous. Moi je suis désolé, j'aurais été déçu que ça ressorte pas ce bouquin, parce que moi je l'ai aimé. Donc même s'il y a que moi à la limite qui l'aime, c'est quand
même
bien.
Rien que pour vous, Nicolas Carreau, c'est quand même bien, c'est vrai.
C'est très, très,
quand je dis moi,
je vous présente Nicolas Carreau.
Quand je dis moi, je veux dire même s'il y a qu'un seul lecteur qui l'aime, c'est
bon.
La semaine prochaine, il y a 9 textes de Proust inédits. Neuf textes de Proust inédits qui sortent la semaine prochaine, c'est quand même incroyable. Sauf que quand même, on sait que bon, c'est Bernard de Fallois, grand éditeur, qui a retrouvé ces textes, et il devait être publié dans un des premiers livres de Proust, qui est Les Plaisirs et les Jours. 9 textes. Mais Proust ne les aimait pas, il trouvait qu'ils n'étaient pas assez.
Alors là, il y a une question
éthique
qui se
pose. Mais du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que maintenant, grâce à ces textes, on voit comment il a appris à écrire d'une certaine manière. Quelles sont ses erreurs, comment il s'était un peu moins travaillé, un peu moins Proust, mais tout était là quand même. C'est vachement intéressant du point de vue littéraire. C'est pas juste une
histoire
d'argent.
C'est intéressant pour nous, mais lui, si ça lui fait du tort.
D'argent, mais honnêtement, mais j'ai toujours refusé parce qu'on me proposait d'écrire. J'ai trop de respect, je ne vais pas. Mais je le ferai peut-être pour qu'il soit publié après ma mort pour mes héritiers.
Oui. Ah ouais, bah c'est pas mal. Ça
serait pas con. Ah ouais. Genre, je balance tout, je m'en fous, je suis mort. Et vraiment savoir ce que je pense et ce que j'ai traversé pendant ma vie. Non, mais j'en parlais, je vous jure, il y a quelques jours à la vie, on me dit tiens, oui. Et pourquoi pas? Il me dit ben, c'est un peu cynique quand même. Je dis non, pas du tout. Comme ça, au moins, et tous les droits reversés à mes enfants, qui après le reverseront à une association caritative.
Bien sûr.
Teamseed.org, qui est toujours ma famille, mais ça reste familial, mais ça reste. Quand même, sur un, comme ça, des gestes comme ça, spontanés et généreux.
On a tous les éditeurs de Paris qui vont nous appeler là, c'est quand même une belle proposition.
Nicolas. Le plus grand mythe, c'est Salinger, l'auteur de L'Attrape-cœur. Il avait écrit donc ce best-seller international et après il s'est enfermé dans sa maison, on l'a plus jamais revu, plus jamais entendu, et on savait pas s'il écrivait ou pas. Mais la légende voulait qu'il écrivait tous les jours et qu'il mettait ses textes dans une grande malle qu'on pourrait découvrir après sa mort. En 2010, il est mort, il y avait rien, son fils a dit je vous dis pas pour l'instant, on va voir, peut-être, peut-être pas. Et là, au printemps dernier, il a dit voilà, j'ai récupéré. Effectivement, il écrivait tout le temps. Je suis en train de travailler dessus pour pouvoir publier tous les textes de Salinger.
Et si c'est lui qui a écrit?
Si c'est lui qui a écrit.
Non, sait rien, bah,
ça y est, j'ai fini d'écrire ce qu'avait écrit mon père. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai retrouvé les écrits de mon père. Ils étaient cachés sous mon lit.
C'est
la femme de ménage, figurez-vous, qui un an après, en faisant le ménage, a retrouvé tous les écrits de mon père que je vous. Je les ai recopiés, moi. Hein. C'est pour ça que c'est mon écriture, hein, mais c'est mon père, hein, c'est pas moi.
Non, mais Dumas, par exemple, on sait qu'il y en aura d'autres des inédits. Moi, j'ai visité l'endroit où tous les manuscrits de Dumas sont conservés et il sort régulièrement des inédits d'Alexandre Dumas. Le dernier grand inédit, c'est Le Chevalier de Saint-Hermine, qui était la fin d'un cycle. Dumas, il fonctionne par cycle. Donc, il y avait 3 bouquins, c'est le cycle révolutionnaire, avec Les Bleus et les Blancs, Les Compagnons de Jéhu. Il manquait la fin. On savait que ça s'appelait Le Chevalier de Saint-Hermine, mais on l'avait jamais lu. Et il est sorti il y a quelques années, sorti par le grand spécialiste de Dumas, Claude Chopp, qui m'a fait visiter cette caverne où il y a encore plein de Dumas inédits.
Très bon sujet,
à
hein, quand même. Hein, parce que c'est vrai que c'est intéressant.
C'est vrai,
hein. Ah ouais, mais ça vaut pas le. Si, enfin, si c'est bien, là, mais c'est intéressant aussi le VG. J'ai déjà oublié le nom.
Les frigas.
Le problème, c'est que vous ne pouvez pas voter pour tout le monde, Patrick. À la fin, il n'en restera qu'un.
Europe 1.
Ego boursouflé, haine recuite. Depuis la création de cette émission, la rédaction d'Europe 1 n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Heureusement, chaque après-midi, vers 5h moins le quart, les belligérants déclarent une trêve. Ils déposent les armes pour assister, hilar, au quiz durant lequel Eva Rock se fait atomiser par l'invité. Quoique, pas toujours, hein. Faites attention, Patrick Timsit, parfois elle répond juste. Non. Eva, meilleur homme politique dans une actrice française?
Ah, François Baroin.
Oh oui, mais ne la citons pas, ce serait inconvenant.
Ah tiens, ça fait penser qu'il faut qu'on invite Michel Laroche.
Top, non, mais vache, taisez-vous, à tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Timsit pour la sortie du film J'irai où tu iras. Patrick, c'est votre passion pour Céline Dion qui vous a attiré dans ce projet ou c'est autre chose?
Non, c'est le scénario, hein, c'est l'histoire. C'est même, ça. Hein, je ne savais même pas qui était Céline Dion.
Votre autre actualité, Patrick, c'est cette annonce cet été, une annonce que je n'ai pas beaucoup appréciée. Votre prochain one-man show serait aussi le dernier. Est-ce que c'est possible de mettre un veto ou de faire on peut se cotiser sur change.org, une pétition? C'est pas possible, ça, Patrick. Pourquoi ça serait le dernier?
Eh ben c'est exactement la réaction que j'attends, justement, qu'on me demande pourquoi.
Non, mais parce qu'il y a des humoristes qui s'essoufflent, mais vous, le dernier spectacle était tellement, on peut le dire, il était dingue, le dernier spectacle. Vous êtes sur la pente encore ascendante. Pourquoi arrêter maintenant?
Mais parce que ça fonctionne, parce que justement, parce que la peur du spectacle de trop, peut-être, et de se dire, voilà. Et puis, alors c'est vrai que le thème des adieux, je me rends compte, puisqu'on a commencé à l'écrire, là, vraiment, il est construit et tout, mais là, maintenant, on rentre dedans. C'est un vrai thème, donc ça vaut le coup de vivre ces adieux quand on vous dit non, pars pas, plutôt que dégage ou je viens pas. Il vaut mieux partir avant qu'on vous fasse partir, quoi, vous voyez le principe.
Ouais,
et c'est vrai, c'est pour ça que j'y crois.
Vous y croyez, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà même trouvé le titre du spectacle d'après.
Oui, c'est vrai, je l'appellerai Oups. Je m'ai trompé. Oups, je m'ai trompé. Non mais si vraiment à un moment, je crois que c'est Christopher Robin qui est mon agent et mon ami, mais surtout mon ami, ça voudrait dire qu'il bosse pas assez bien, on sait pas quoi dire.
Oui,
alors, non, surtout mon agent, alors je suis pas ton ami alors. Et qui me disait, je sais plus ce qu'il me disait parce que on parlait de quoi.
Ouais. Si jamais vous n'arrivez pas à partir, il y aura un autre
spectacle.
Ouais, il me parlait justement, alors je crois que c'est Nana Mouskouri qui avait dit adieu, adieu, adieu. Et elle s'emmerdait tellement à la maison qu'elle a dit, mais c'est pas parce que j'ai dit adieu qu'il faut plus que je remonte sur scène. Et elle est remontée sur scène.
Évidemment. Voilà.
Mais non, ouais, là vraiment, c'est pas ni un coup, un effet de pub ou quoi que ce soit. Je le savais déjà même quand je saluais les dernières fois dans le spectacle d'avant en me disant, waouh, ça va être dur, ça va être très dur. Et je crois que je ne soupçonne pas l'émotion que ça peut provoquer. Mais les adieux,
vous,
c'est vraiment...
Patrick Timsit, tous les jours, à cette heure-ci, pour se détendre, un petit quiz thématisé oppose notre invité à Eva Rock. Et en hommage au film J'irai où tu iras, vous êtes le père de Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, on fait un vrai faux sur les relations père-fille. Des relations pas toujours faciles.
Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
Parfois, pas toujours simple d'élever une fille. Vous répondez chacun votre tour, chaque bonne réponse vaut un point. Patrick Timsit, la fille aînée d'Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, est entrée au couvent des Ursulines, Ursulines Covent, à la Nouvelle-Orléans, à l'âge de 16 ans. Elle y est toujours aujourd'hui, vrai ou faux?
Moi je dirais vrai.
C'est
pour se débarrasser, pour être libre de pouvoir vivre.
C'est vrai.
Parce que vivre cette vie sous le regard de sa fille, je préférerais qu'elle soit au couvent. Parce que là, si elle est dans la même maison, et dans les mêmes petits-déj, et dans les mêmes soirées, à un moment, il y a quelque chose de raté.
C'est vrai. Il aurait dû l'y mettre, si j'ose dire. Par contre, la fille de Peter Falk, l'acteur de Columbo, est détective privée.
Ce qui n'a aucun rapport.
Mais, oui, mais si, oui. Le lien père-fille.
Oui.
Mais Eva, je vous interdis de critiquer mon quiz.
Pardon.
Sinon, c'est excellent ce quiz.
Oui, très très bien. Vraiment très bien.
Oui,
allez-y, posez votre question.
Eva Rock, la grenouille de Darwin d'Amérique du Sud naît par l'anus du mâle de l'espèce. Vrai ou faux?
Je sais, mais je vous aiderai pas.
Non, mais non, je dis non.
Ah oui, non, effectivement.
Mais faire des questions
elle
comme
a une
ça.
Spécificité, c'est pour ça qu'on pose la question. Elle naît par la bouche. Ah. La femelle abandonne des œufs fécondés dans la bouche d'un mâle qui n'est d'ailleurs pas forcément le père biologique. Il les garde jusqu'à éclosion dans la bouche.
C'est un bon papa.
Fascinante nature. Attention, tous les deux. Une question, trois propositions. Vous répondez ensemble. Jonathan Soriano joue au foot en Autriche à Salzbourg. Un soir, il arrive en retard, seulement à la mi-temps du match, car il est allé assister à la naissance de sa fille. Que s'est-il passé ensuite? Trois propositions. 1. Il a mis 3 buts. 2. Il a appelé sa fille Gaul. 3. Il est resté sur le banc de touche et il a eu bien les boules.
C'est difficile hein, de savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur de foot.
Surtout autrichien.
C'est vraiment compliqué. Hein. Hein, vraiment. Non, moi je le vois bien marquer 3 buts. C'est vraiment. En et tout cas, il en a rêvé. Il rêvait sur le banc de touche qu'il allait marquer 3 buts en 10 ans go.
Ah, je pense qu'il est resté sur le banc de touche.
Ouais, ben c'est Patrick Timsit qui remporte le point. Ah ouais. Non seulement il a mis 3 buts en 45 minutes, mais en plus il a offert la victoire à son équipe. En plus, Salzbourg, je crois que c'est une équipe de Ligue 1 en Autriche, donc c'est pas un match de campagne. Quoi. C'est vraiment une très belle affiche. Égalité dans ce quiz. Ah, j'aime bien comme ça, distribution égale des points. C'est et il n'y a pas de déçu, l'invité repart content.
Il
n'y
a pas une
content.
Question pour départager.
Non.
J'aimerais
non.
gagner, moi.
Oui.
Je vous laisse la victoire.
Oh, comme c'est mignon.
Ouais,
non,
je vous laisse
la
victoire.
Moi, je vous l'offre.
Oh, c'est gentil. Merci, Patrick.
Que d'émotion dans le studio. Patrick Timsit est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Comme ma complice Eva Rock en fin d'après-midi, vous êtes parfois un peu chafouine. Et il n'est pas rare même que vous boudiez, et qu'une fois dans le lit conjugal, la nuit venue, alors que votre conjoint commence à vous papouiller, vous lui tourniez sèchement le dos en lui lançant, avec ce sens de la formule qu'on vous connaît...
Je joue pas de flûte aujourd'hui.
L'image est belle, Eva, mais bouder ne sert à rien, vous savez. Écoutez plutôt l'équipée sauvage. 2 heures d'allégresse informative avec les meilleures orchestrations de la compagnie créole. Et oui. Et avec ça, je peux vous dire que plus personne ne dormira à l'hôtel du cul tourné ce soir.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Francis Cabrel s'était déjà maintes fois posé la question « Est-ce que ce monde est sérieux ?» Question à laquelle il avait eu une réponse à l'été 2017 quand un certain Mighty Mike avait sorti un remix house de La Corrida.
Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement...
Vous allez arrêter avec cette musique, hein ?
Clairement non, le monde n'est pas sérieux. Mais si une chose devrait l'être, c'est la science. Or, je crois que là aussi, c'est en train de partir complètement en sucette puisqu'une grande expérience a été menée dans 13 villes de France à l'occasion de la Nuit des chercheurs pour désigner... le nounours le plus réconfortant. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Alors pour répondre à cette question essentielle, ce sont les visiteurs qui ont été mis à contribution.
Et oui, ce sont même surtout eux qui ont travaillé. Hein. Ils pouvaient venir avec leur propre nounours ou en choisir un sur la trentaine qui était mis à disposition. Un nounours pris en photo, étiqueté avec son nom commun et évidemment son nom en latin. Vous avez le nounoursus originalis ou le nounoursus timidus par exemple. Et on lui fait subir toute une batterie d'examens pour le mesurer, tour de ventre, douceur à l'aide d'une réglette qui présente des échantillons de poils référence qui vont du plus ras façon couverture polaire au plus long façon chat angora. Toute une série de critères, donc un véritable inventaire morphologique comme un naturaliste, comme l'explique Hélène Pierre qui coordonne cette expérience ici à l'Université fédérale de Toulouse.
Prendre des nounours, les mesurer, mesurer l'écartement des yeux, la grosseur de leur museau, la longueur des poils, etc. Et donc c'est une façon aussi de faire comprendre aux visiteurs ce qu'est un protocole de recherche, qu'est-ce que la démarche scientifique.
Mais une fois qu'on a entré toutes ces données, comment on va savoir lequel est le plus réconfortant ?
Eh bien justement, je sens bien Mathieu vous trépigner d'impatience, mais j'y arrive car oui. C'est là le moment le plus dur de l'expérience, le combat de nounours.
Oh
façon
non.
Mortal Kombat en 1 contre 1. Si, si, il faut y arriver un moment. Hein. Sur l'écran s'affichent 8 confrontations sans merci, pire qu'ici entre les chroniqueurs de l'équipée sauvage, c'est
non,
vous dire.
Non, c'est pas possible.
Mais si, je vous assure, puisque le visiteur devait donc répondre à chaque fois à cette question cruelle. À quel nounours as-tu le plus envie de faire un câlin quand tu es triste ou quand tu as peur? À lui donc de choisir l'un ou l'autre à chaque fois. Pas de match nul possible, il faut choisir. Et c'est là que l'expérience devient en fait très sérieuse, puisque ce que les chercheurs étudient, ce sont les critères qui nous poussent à choisir ce nounours plutôt qu'un autre. Quelles émotions entrent en jeu? Est-ce qu'une peluche qui a telle caractéristique ou telle autre est désignée davantage? Parce qu'en fait, le nounours n'est qu'un prétexte dans toute cette histoire. C'est nous qu'on étudie, comme l'explique Franck Amadieu, qui est chercheur en psychologie cognitive.
Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer au public à la fois la démarche rigoureuse en science et comment aussi on combine des sciences naturalistes où on va pouvoir décrire les caractéristiques des ours et comment on va s'intéresser à la subjectivité de l'individu en mesurant notamment son sentiment de réconfort avec l'ours. Et ça, c'est la psychologie qui va justement essayer d'investiguer ce sentiment chez les individus.
Alors ensuite, les données de cette expérience qui a été menée simultanément à Toulouse, mais aussi à Paris, Saint-Etienne, Besançon, 13 villes en tout. Tout est parti à Montpellier, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de cette expérience. Et dans quelques semaines, ils présenteront leurs résultats avec un indice de réconfortabilité pour chaque ours en peluche, pour les classer en fonction de leur capacité à provoquer des émotions chez l'adulte et chez l'enfant.
Réconfortabilité.
Réconfortabilité. À noter que Eva Rock possède un ours vibrant, extrêmement réconfortant.
Oui.
On l'embrasse d'ailleurs.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup Benjamin Péter.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour étoffer votre culture G grâce à une savoureuse battle entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Une émission que nos invités trouvent généralement très agréable, sauf bien sûr quand on gaffe, comme vendredi avec l'écrivain Bernard Werber. L'ambiance était gaie et rieuse jusqu'à ce que Ève Roger aborde le phénomène de ces couples qui se séparent juste après la naissance d'un enfant. Là, l'émission a connu un petit coup de mou.
Une fois, j'avais amené mon enfant chez le pédiatre, et le pédiatre me dit « Vous avez le courage de faire des enfants parce que je sais que dans 2 ans, vous serez séparés. » C'est la nouvelle règle.
Mais vous lui avez donné tort.
Non.
Non. Super sujet, c'était bien choisi. Patrick Timsit, restez avec nous, je vous rassure, Ève Roger n'est pas là aujourd'hui. Et puis on va parler nucléaire, si même notre expert éco Axel de Tarlé commence à avoir des doutes, c'est peut-être que ça craint vraiment. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures d'une lutte fratricide entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture générale et sous le haut patronage d'un invité arbitre dont la voix comptera triple au moment du vote. C'est Patrick Timsit qui nous accompagne aujourd'hui. Patrick, comment vous trouvez l'émission jusqu'à présent ?
Longue mais belle.
Ah.
Mais longue mais
oui.
belle.
Non.
Mais longue mais
oui.
belle.
Oui, mais bien. Mais bien quand même, Patrick.
Formidable. Je m'ennuie pas. Pas une seconde.
Vous êtes à l'affiche de J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache. Vous y incarnez son papa. Vous diriez que c'est plutôt une comédie ou une comédie dramatique? Il y a quand même, on rigole beaucoup, mais il y a quand même des moments, il y a des moments très émouvants.
Ouais, ouais, ouais.
Petite larme aux yeux quand même, hein.
Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est compliqué toujours de définir comédie sociale, comédie dramatique. Moi, je dirais que c'est un film, un bon film avec des émotions. Et en fait, on rit, on pleure, et finalement, ce qu'on veut faire, c'est faire passer de l'émotion dans un spectacle aussi. On a ces moments-là, mais il y a beaucoup de gens qui pleurent aussi beaucoup, et voilà, heureusement qu'ils rient, on va dire.
Ça compense. Ouais. J'irai où tu iras. On continue d'en parler. Mais d'abord, je vous propose de découvrir nos deux derniers concurrents en lice aujourd'hui. À ma gauche, il sait que son statut d'expert éco n'est pas hyper sexy, du coup, pour séduire l'invité, il n'hésite pas à faire appel à sa palette d'acteurs. Ayant échoué de peu au casting pour le biopic de Georges Marchais, après pourtant des essais assez concluants,
taisez-vous, El Kabach.
Axel de Tarlé s'est présenté au casting pour le biopic de Rocco Siffredi, titre provisoire Les Talons Calabrés.
Ah ah, tout m'intéresse.
Re-échec, mais ça va finir par passer un jour. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu.
Il y a hélas quelque chose d'encore plus foireux que vos imitations, ce sont les centrales nucléaires, c'est ça?
Oui, voilà, je vais vous parler de l'EPR. J'ai décidé de ne pas gagner aujourd'hui le concours avec un sujet bien plombant, le nucléaire qui marche. Oh.
Le nucléaire qui marche pas.
Voilà.
C'est très écolo, hein,
remarqué. Oui, hein. Oui, c'est vrai. Déjà quand il marche, ça inquiète. Voilà, là, franchement, ouais.
À ses côtés, Patrick Timsit, il était...
Et le nucléaire qui explose, vous y avez pensé à ça?
Ça sera la semaine prochaine, ça. À ses côtés, Patrick, il était inespéré qu'un Parisien ait un jour une idée intelligente pour sauver les glaciers.
Ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre.
Le problème, c'est quand tu repars.
Ouais.
C'est un vrai retour.
Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé.
Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais?
L'été, tu viens pas ici, tu vas à la mer.
Anissé Vida, vous incarnez cette nouvelle génération de Parisiens qui pensent à la montagne.
Les bronzés, c'est bon pour moi.
En première étoile, ça a fait un succès. Gros succès. C'était un sujet de film, vous vous rendez compte? On en plaisante, vous auriez eu cette idée.
Vous seriez pas là aujourd'hui.
Film, bah,
vous
voilà.
Seriez riche. Allez, c'est de quoi vous parlez.
Vous seriez le patron de Repas.
Après le discours de la jeune Greta Thunberg et puis après les incantations à l'ONU, etc., moi je veux parler des scientifiques qui montent au créneau avec des projets complètement fous pour justement eh bien, ralentir le réchauffement des glaciers et surtout refabriquer la banquise, reconditionner la banquise.
Ça c'est très putassier. Hein, comme
c'est un peu bon, hein. Mais c'est très bon aussi.
Très bon, ça attire la curiosité, alors que le vôtre aussi. Le vôtre aussi, un très bon sujet aussi, forcément le nucléaire. Hein,
qui marche pas.
Mais ça sera pas aussi. Est-ce que c'est au niveau des marchands de, enfin des récupérateurs de...
Moi j'espère qu'il y aura une petite explosion ou une fuite radioactive, parce que c'est là que ça sera vraiment intéressant. On va voir Axel, ce que
mais
vous nous promettez.
C'est horrible.
Il faut qu'il se passe quelque chose.
Patrick, parce qu'il y croit pas.
Patrick Timsit, selon l'expression consacrée, on ne vous présente plus, mais on fout la musique de Champs-Elysées pour souligner que vous êtes quelqu'un d'important. Plus de 40 films à votre actif, des one-man shows qui ont marqué leur époque, mais comment vous voyez Patrick Timsit? Voici Patrick, non pas un micro-trottoir, indigne de la créativité de cette émission, mais un micro-trop-trash. C'est pareil, sauf qu'on a tout gardé.
Patrick Timsit, c'est pour toi ça.
Un clown, je sais pas, il a un faciès de clown, mais dans le bon sens du terme, quoi.
Humoriste, comédien, peut-être metteur en scène.
Il a pas fait des films au cinéma?
Sur Notre-Dame de Paris.
Un indien dans la ville?
Il joue dans le 11 commandements. C'est fifou.
C'est lui qui a joué dans La vérité, c'est le jeu.
Patrick, ici.
Vraiment très sympa, c'est mon voisin en plus. On habite pas loin. Ah, il a beaucoup de charme. Ah ouais, moi je trouve qu'il a beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, je trouve qu'il a une présence. Hein.
Il est charmant.
c'est quelqu'un qui est comme on le voit à la télé, il est dans la vie.
Patrick Timsit.
Ouais, les filles, elles sont
tout gardé,
fou.
C'est quand même très positif.
C'est très
tout
positif,
ça.
Oui, on vous dit, on a tout gardé. On est comme ça. S'il y avait une vacherie, on l'aurait laissé.
Y compris les 06. Si je ne balance pas une énormité un peu grassouillette et tout ça, c'est pas possible, je peux pas. Après, on va tomber dans la mièvrerie. Mais oui. C'est touchant quand même, non? Ça vous a touché?
Je me mets à votre place, c'est touchant.
Ça vous toucherait. Et malheureusement, j'ai fait un micro-trottoir et ça donne pas la même chose. Allons-y, top régie, top régie.
Mathieu Noël, je connais pas.
Ben Mathieu Noël, je sais pas du tout qui c'est.
C'est quoi Mathieu Noël?
Je sais pas qui est Mathieu Noël.
Je pense pas grand chose de Mathieu Noël, mais je connais pas.
Ah oui, ben je le connais, je bosse avec. Franchement, bof, c'est un relou.
Ça viendra, mais c'est pas ça encore. Hein. C'est de la merde. Lui, oh ben, je l'écoute jamais. Ben vous savez qui passe quand même. Mais où? Voilà, le micro-trash, Mathieu.
Il est à l'affiche de J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache. Patrick Timsit passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Eva Rock, Anis et Mbidak, celles de Tarlé sont à mes côtés. L'équipée sauvage, l'émission où le savoir le plus exigeant roule des grosses galoches au divertissement le plus potache continue. Doucement quand même, Axel, hein, votre femme écoute peut-être.
Mais je sais pas, avec toi je me lâche plus.
Oui, mais calmez-vous quand même. À suivre. Et si on venait de trouver le moyen de stopper la fonte des glaces? Je vous donne un indice, c'est un sujet qui ne manque pas de sel.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Il est à cette émission ce que Superman est aux autres super-héros. Un super-héros encore plus puissant. Avec 20 points, il fanfaronne en tête du championnat des meilleurs chroniqueurs d'Europe 1. Donnez-moi un M, donnez-moi un B, donnez-moi un I. Voici Anis Mbida. Mais Superman n'en reste pas moins un homme, avec ses désirs, ses failles, pour ne pas dire ses vices. Alors, évidemment, s'agissant de sa vie privée, on ne portera pas de jugement de valeur, mais bon, ne serait-ce que pour quelqu'un qui défend l'environnement, jouer avec de la nourriture, ça ne se fait pas.
Avec la bonne saucisse, là, qui brille tellement elle est grasse, t'appuies dedans, ça gicle.
Désormais, Anissé Midas sera évacuée avant la rubrique gastronomique d'Olivier Pouls. Visiblement, ça lui donne de sales idées. Alors Anissé, avec quel sujet allez-vous une fois de plus rafler la mise aujourd'hui?
Peut-être pas avec une saucisse. Hein. Je vais essayer de parler d'un sujet un peu plus sérieux. Allez, un petit peu de contexte.
C'est sérieux la saucisse.
Surtout quand elle est bonne et qu'elle est bien grasse.
Oui, bon, bah oui, on a compris.
Et qu'elle lui,
il est fou.
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le mois dernier, il y a eu des funérailles, une commémoration de la disparition d'un glacier en Islande. La semaine dernière, la même opération a eu lieu en Suisse, toujours pour la disparition d'un glacier. Et il y a quelques jours, du côté italien du Mont Blanc, là, on a carrément fermé les routes, évacué les refuges, parce qu'il y a un glacier qui risque de s'effondrer. Hein. 250 000 mètres carrés de glace qui sont en train de se déplacer de 50 à 60 cm par jour, ce qui est considérable. Et donc, évidemment, tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Donc, on se dit que, bah, collectivement, on a quand même tous un petit peu de mal à changer un peu la donne. Ça fait bientôt 2 ans hein, que les accords de Paris ont été signés. Donc, des scientifiques sont montés au créneau, se sont dit, bah, on va trouver une solution beaucoup plus radicale, notamment pour ralentir cette fonte des glaciers. Et la première solution, c'est de saupoudrer des grains de silice blanc, une sorte de sel, justement. Ces grains-là vont se recouvrir toute la surface des glaciers et réfléchir la lumière du soleil et donc protéger un peu, ça fonctionne un peu comme un parasol, protéger.
Je pensais qu'on salait pour déneiger, moi. Non, on sale pas pour déneiger.
Quand on sale pour déneiger, c'est parce que c'est pour empêcher la neige de s'accumuler et de faire de la glace. Là, c'est
monsieur,
c'est pas
j'ai
du
réponse
sel.
À tout. Il me plaît bien.
C'est pas pour
me déplaire.
J'ai commencé par dire que c'était des grains de silice, donc c'est plutôt proche du verre.
C'est pas du sel.
Non, c'est pas du sel, mais ça ressemble. Visuellement, ça ressemble. C'est pas du sel.
J'ai jamais tort.
Non, il a jamais tort.
Oui, mon stylo.
Axel de Tarlé tend un stylo à Patrick Timsit, ce qui peut lui profiter. Moi j'ai une question pour vous. La silice,
donc
comment,
c'est moins 3, hein,
comment
c'est
on le met? On le met avec des hélicoptères?
Par exemple, on peut utiliser des hélicoptères, mais sinon
Patrick, qu'est-ce que vous en pensez?
L'erreur, et tout,
le carbone
et tout ça.
Vous rigolez.
Je rigole pas.
Mais non seulement on va recouvrir, mais on veut aussi reconstituer la banquise. Et là, c'est un autre système qui demande aussi également beaucoup d'énergie. Là, l'idée, c'est de pomper l'eau glacée qu'il y a en dessous de la banquise et de la remettre au-dessus de la banquise avec des brumisateurs géants. L'eau, comme ça, quand elle va tomber, elle va geler et donc reconstituer la couche de glace. Donc vous riez, mais on
personne
est à une catastrophe écologique considérable.
Parce que personne ne riait là. Hein, mais vous vous riez là, je vous entends rire là. Personne
quand on n'aura plus de planète, où sont
ah non, il nous fait passer pour Trump. Oui. Mais il est méchant.
Il est très fort. Il joue sur la culpabilité. Il joue sur la culpabilité.
Moins 2 qui donne moins 6, hein, parce que c'est moi qui donne.
Ça va nous coûter combien tout ça? Ça a l'air extrêmement cher, des brumisateurs géants sur la banquise, excusez-moi.
Mais... Oui, mais moi j'ai envie de poser la question, ça va coûter combien si jamais des torrents sont asséchés? Ça va coûter combien s'il y a des tsunamis? Ça va coûter combien si les océans remontent? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 5 à 7 milliards de dollars, évidemment, de ces projets vont coûter extrêmement cher.
Vous êtes en dépression. Vous savez, c'est la nouvelle dépression. J'ai un sujet dans le prochain spectacle là-dessus. Cette dépression, comme ça, on va tous crever, mais c'est dans moins de 10 ans et tout ça. Non, mais ce qui est peut-être vrai, hein, attendez, je ne sais pas.
On va tous crever,
là,
ça, c'est
y a
sûr.
Une... Ah oui, non, dans moins de 10 ans, j'avais fini, oui. Et c'est vraiment. C'est... Non, c'est ça, ça existe. Hein. Ça s'appelle la dépression. Enfin, ça, on soigne une nouvelle sorte de dépression qui est la dépression de. Dans 10 ans, tout est fini.
Moi, j'essaie d'apporter un peu d'espoir pour dire que c'est pas, tout n'est pas terminé.
Mais vous avez raison.
Avec justement, on a peut-être des solutions pour ralentir les effets parce que collectivement, on a peut-être un peu de mal à changer nos comportements au quotidien. Donc, il y a des scientifiques qui essaient de trouver des solutions radicales pour accélérer. Parce que là, on parle de quoi? On parle de 2 degrés, de diminuer de 2 degrés la température des glaciers. 2 degrés, c'est exactement le projet des accords de Paris. Donc, on cherche à nous aider, nous, petits bonhommes qui avons du mal à changer nos comportements avec des solutions parfois beaucoup plus radicales. 70% de l'eau douce sur Terre vient des glaciers et vient de la banquise. Donc c'est très important pour nous, d'autres humains.
Merci beaucoup, Anissé Mbida. Eva, comment vous l'avez trouvé?
Psychopathe.
Moi aussi. Enfin bon, c'est notre invité qui tranchera. Il est déjà à moins 6 en termes de points.
Non. Mais, le sujet est important, c'est vrai. Mais non, mais vous êtes au courant, hein, je ne plaissantais pas.
Il y a une
nouvelle dépression comme ça où on peut rentrer vraiment dans un trou vraiment très sombre. Vous avez bien vu. Voilà. Moins 6 comme par hasard. Voilà. Je m'appellerai Axel Dupuis. Ah ben là, il m'a raconté ça. Hein. Mais voilà, évidemment. Voilà. Vous savez pourquoi. Hein. Ça s'explique. Hein.
Je crois que vous l'avez compris. Patrick Timsit est notre invité sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre pour le meilleur et pour le pire. Sur.
Non.
Ça faut l'assumer.
Pour le
faire. Ça, faut
pas.
On le coupe pas. On le coupe pas au montage.
Je veux l'entendre, hein, ça. Pour le faire comme ça, et puis il va réenregistrer. Non, c'est une prise et maintenant, et on va garder celle-là.
Pour le meilleur et pour le pire, une vanne à découvrir dans le nouveau spectacle de Patrick Timsit. Qui se chiffre en milliards. C'était pas drôle. Retard sans cesse augmenté. Problème en série avec les EPR. Le nucléaire est-il en train de virer au cauchemar, les amis? Axel de Tarlé a enquêté. Une chose est sûre, les scientifiques qui ont lancé le nucléaire en France au XXe siècle savaient ce qu'ils faisaient. C'est vraiment étonnant que ça ait mal tourné tout ça.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures hybrides associant vitesse, humour et action, un peu comme un épisode de Magnum, mais sans les moyens de Magnum. Et sans moustache. 2 heures d'une compétition infernale entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se surpassent au service de votre culture G pour les noter, vous et un invité d'honneur dont le vote compte triple. Des invités qui croient beaucoup en l'émission, comme Bernard Werber, vendredi.
Je pense que ça va marcher en Bretagne.
Aujourd'hui, c'est Patrick Timsit qui nous accompagne. Tout se passe bien, Patrick? On sait que ça va marcher en Bretagne, l'émission?
Ah oui, oui. Surtout, ça marchera en Bretagne. Pas surtout, mais ça marchera aussi en Bretagne, oui.
Vous êtes à l'affiche des nouveaux films de Géraldine Nakache, J'irai où tu iras. Vous qui dites que vous êtes un grand stressé, est-ce qu'à la veille d'un film que vous n'avez pas réalisé, en l'occurrence, vous êtes aussi stressé, vous êtes aussi dans un état d'angoisse?
Alors, moi, je suis stressé. Je pense que c'est l'écriture qui me stresse le plus. Hein. Vous, ça se voit. Je tiens pas en place, je coupe la parole, pardon, même sur des sujets extrêmement importants, mais il faut bien en parler en même temps. Ça, c'est horrible. Vous savez ce que je suis là? Je suis dans le syndrome écriture. C'est-à-dire, ma famille va supporter ça pendant 2 ans, vous voyez.
Là, vous êtes en écriture de votre futur spectacle.
Futur spectacle, donc c'est de la vanne pour tout. C'est je respecte rien. C'est je coupe la parole, c'est moi qui suis intéressant. Il faut avoir une dose de mégalomanie de dire, mais putain, c'est moi qui vais être sur scène. Fous-moi la paix, laisse-moi parler. Voilà. C'est horrible pour l'entourage. Moi, j'ai vu mon fils pleurer. pleurer, moi, à table. Mais vraiment, hein, à les larmes aux yeux, parce que je lui dis, je balance une énième fois une des vannes du spectacle, je rôde. Donc tous les soirs, je rôde le spectacle. Ouais, sur les proches. Et là, je le vois, et il passe, je lui dis, mais tu sais qu'il y a d'autres comiques, hein, je te prends des billets, moi, si je te fais pareil. Et là, il a eu les larmes aux yeux. Mais c'est drôle, mais ça fait 40 fois que tu me l'as fait, papa. Je peux pas rire au bout de la carte. Et là, je crois que c'est moi qui ai eu les larmes aux yeux, en fait. Non, il a quitté la table nerveusement et j'ai eu les larmes aux yeux en disant, mais c'est un enfer, quoi. Mais vous avez vu, je suis insupportable, non? Vous êtes d'accord? Alors imaginez si vous viviez avec moi. Moi, je continue dans le taxi, après le taxi, c'est à la maison, la boulangère, la boucherie. Moi, c'est une catastrophe à vivre. Donc le stress, non, au contraire, je suis dans les mains de Géraldine Nakache quand je fais un film et je me vide de tout. T'angoisse.
Patrick, ouais, ne t'arrêtons pas.
C'est important de déstresser, vous savez.
Oui, c'est très important.
Chacun sa méthode, moi ça marche en tout cas.
On ne juge pas.
Je vous le conseille.
Ce n'est pas sale.
Voilà.
Alors que l'équipe est sauvage entre dans sa dernière ligne droite et que vous tremblez d'avance à l'approche du sujet d'Axel de Tarlé sur les déboires du nucléaire français, je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat ni vous créer un stress supplémentaire. Seulement voilà, je vous connais, je suis à peu près sûr que vous avez oublié de faire les courses pour le dîner.
On est mal.
J'en étais sûr. Heureusement pour vous, il y a Délices in Extremis, notre recette de dernière minute. À tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures au service de votre bonne humeur et de votre savoir en compagnie d'un invité vedette. Vendredi, c'était l'écrivain Bernard Werber qui nous accompagnait. Bernard qui réagissait en direct pour Europe 1 à la disparition de Jacques Chirac. Bernard Werber, vous avez ressenti quelque chose de particulier quand vous avez appris le décès de Jacques Chirac?
Je vous avouais, non.
Aujourd'hui, c'est Patrick Timsit qui est avec nous jusqu'à 18h. Alors Patrick, le décès de Jacques Chirac, ça vous a ému, ça vous a touché?
Plus que Bernard. C'est à vous, moi. Donc ça a été annulé.
Ah, bah donc...
Vous voyez bien que j'étais super emmerdé, quoi. J'étais super triste.
Ah oui, cette mort est venue au mauvais moment, quoi.
J'étais dans un... Voilà, on a senti la tristesse sur mon visage, c'est Chirac. Non, c'est à vous. Vous voyez, c'est, j'étais très embêté d'être moins concerné.
Voilà. Face à vous, Patrick Timsit, un homme s'apprête à se dresser contre le lobby du nucléaire. Il sera notre ultime concurrent aujourd'hui, et peut-être notre ultime concurrent tout court, car voici un journaliste qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il dit. Preuve de son toupet légendaire, cet édito au vitriol l'année dernière dans la matinale d'Europe 1.
Le nucléaire est devenu une technologie très compliquée, toujours dangereuse et beaucoup trop coûteuse. Eh bien écoutez, arrêtons les frais.
Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Echo. Vous étiez attentivement écouté par le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui est avec vous.
Ah, c'est cool. Et le PDG d'EDF. Axel, aujourd'hui, le PDG d'EDF n'est pas là, mais il y a Patrick Timsit qui est chaud bouillant. Alors, c'est presque pire pour
chaud
vous.
Patate.
Chaud patate. Le PR, dites-vous, vire au cauchemar. Bruno Le Maire juge les dérives inacceptables.
Oui, alors l'an dernier, on parlait des difficultés de le PR en France. Vous savez, celui de Flamanville, il devait démarrer en 2012. Le PR, c'est le nouveau réacteur génial de 4e génération qui ne démarre jamais. Il est très écolo de ce point de vue. Hein. Il devait démarrer en Finlande. En 2009,
mais
les Finlandais...
Est-ce qu'il est déjà chargé?
On n'arrive même pas à le construire.
Non, mais c'est dingue. Il n'y a aucun EPR qui est en fonctionnement.
Si, alors justement, en Chine, eux, ils y arrivent. Mais c'est une claque de plus pour les Français.
D'accord.
Voilà, c'est...
Oui, mais attention, c'est de qualité chinoise?
Non, c'est un...
Ça peut foutre la trouille. Hein. Ça, c'est déjà un pull.
C'est une technologie française.
Chinoise,
les Chinois...
Sans être... C'est vraiment... ça se trouve plus vite que qu'un autre pull. Hein. On le sait, ça. Hein.
Alors, les Chinois, eux, ils l'ont fait démarrer, le père, mais nous, on n'y arrive pas.
Ouais.
Et alors là, on s'est dit, tiens, allez, on va retenter une troisième fois notre,
et
notre chance.
Ça va donner quoi, le père, le Chinois? Hein, il va rétrécir de partout, ça va exploser.
Ah mais non, mais là, le lavage est impeccable.
Voilà, on va gagner.
Le père ne marche pas. Donc là,
moi j'y crois.
Le français,
j'y crois, mais il faut prendre son temps, monsieur. Il faut prendre son temps.
Alors combien de temps, Axel? Qu'est-ce qui se passe?
Alors donc là, en Angleterre, on dit aux Anglais, vous allez voir, on va en faire un. Et on vient d'apprendre, donc c'est EDF qui a dit ça. Écoutez, on est désolé, on a encore des problèmes de terrassement. Alors ce qui est formidable dans le nucléaire, c'est quand vous avez des problèmes de terrassement, je sais pas, vous, c'est quoi, c'est 10 000 euros, 100 000. Pour un problème nucléaire, quand il y a des problèmes de terrassement, la facture est 3 milliards. Donc,
ah,
vous voyez,
ah oui, je suis pas sûr. Cher le terrassement. Hein.
Putain, j'ai la patate. Hein, c'est voilà. Ça. Hein, vous voyez bien. Non, mais il va être bon ce spectacle. Comment? Ah oui. Je vais en faire un autre après.
Bah,
non.
Mais
non, bien sûr.
Il n'y aura
non.
Pas cette place en 2 heures.
Bien sûr que non.
Et donc, là, c'est deux réacteurs qu'on doit fabriquer pour
vous
les Anglais.
Vous êtes au courant de ma maladie, Axel. Donc vous ne pouvez pas m'en vouloir, vous voyez bien, je suis en plein stress,
non.
Tout le monde, je ne respecte rien.
Tant que vous me mettez des points à la fin, que vous
ne
mettez
pas ma chance.
Je vous en mettrai
tout de suite. Parce que vous l'avez bien coupé, Axel. Je pense qu'il n'est jamais au bout de la chronique.
Il n'a même pas abordé l'intro. Il n'a pas fini l'intro.
Il n'en est pas l'intro. On est à 6 minutes.
Donc, catastrophe.
On est en train de donner des armes.
Pas nucléaire.
À tous les anti-nucléaires, puisqu'on leur apporte la preuve que d'abord, le nucléaire, c'est très compliqué. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à construire ce réacteur en France. Et deux, surtout, c'est très cher.
Rien à dire. Restez, il me regarde, qu'est-ce qu'il a à dire.
Mais Axel,
il a 20 mois même.
Parce que l'électron qui va sortir de cette future centrale, si on arrive à la construire, sera facturé 100 euros le mégawattheure. Or, aujourd'hui, avec l'éolien et le solaire, vous êtes à 50 euros du mégawattheure. Donc, si vous voulez, même les pro-nucléaires qui disaient « Mais le nucléaire, c'est fantastique parce que ça n'émet pas de CO2, donc c'est bon pour la planète », eh bien, même là, on leur dit « Mais oui, mais un, ça ne marche pas, et deux, c'est très cher ».
Et leur expression, c'est « J'ai un mini-doute ». excusez-moi, j'ai un mini doute.
Exactement.
Et le mec, c'est le petit mec qui, depuis le début de la réunion, et aujourd'hui, c'est un petit mec, mais il a 20 ans de plus, hein, puisque ça fait 20 ans qu'il dit excusez-moi, j'ai un mini doute, et on lui a jamais donné la parole. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous met dans la merde. Alors que moi, il n'y a pas besoin de me la donner. Hein.
Ça, c'est bon.
Je suis en dépresse, il faut que je consulte.
Est-ce que c'est pas trop tard pour arrêter? C'est-à-dire qu'on a investi déjà tellement dans ces EPR que maintenant, si on arrêtait tout, ça serait un gouffre financier monstrueux.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on dit. On disait pour Flamanville, on a déjà mis 3 milliards, on va pas arrêter maintenant, mais Flamanville, maintenant, ça coûte 12 milliards, ça démarre toujours pas. Hein.
12 milliards pour rien pour l'instant.
Oui, et d'ailleurs, qui va payer?
Pour savoir que justement.
Les Anglais, on leur a facturé 24 milliards. Je peux vous dire que si ça ne marche pas, ils ne vont pas les payer, les 24 milliards. Donc qui va payer? On
est en train de. Les faire payer d'avance.
Eh ben.
Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête?
Je peux dire qu'avec vous, aux finances, l'économie française serait mieux tenue.
Et donc on commence à faire le parallèle avec le Crédit Lyonnais.
On fait un parallèle avec le Crédit Lyonnais, oui.
Voilà, bah oui, ça s'est très mal terminé. Vous savez que justement, la partie nucléaire d'EDF va être nationalisée, un petit peu comme vous savez, la bad bank du Crédit Lyonnais là, après la faillite, et on a dû payer 15 milliards, et là on se demande si ça terminera pas comme ça.
C'est les contribuables, c'est nous qui allons payer tout ça.
Ah bah, si, à la fin, EDF, c'est français.
Mais Patrick Timsit plus quand même, c'est la proportion des moyens.
Ah voilà, c'est voilà.
Pas tant mieux. Je me le souhaite. Je me le souhaite, parce que si je gagne plus que vous à Europe 1, c'est pas mal. Hein, ça voudra dire que je gagne bien ma vie, que je suis heureux, j'aurai pas besoin d'aller sur les marchés. Je veux dire, après la fermeture, hein, bien sûr.
Oui, Axel, un dernier mot.
Mais non, mais j'essaye de mettre une bonne phrase de fin pour clôturer
De toute façon, là, on est à un degré d'improvisation.
Quelle
chronique? Il y avait une chronique? Vous avez fait une chronique? Pas là, compris,
là, parce que j'ai un mini doute là.
J'ai eu une discussion.
Que Axel n'a rien foutu. Quoi. Non, il n'a rien appris. Il vient nous parler d'un truc qui ne marche pas, dont tout le monde sait que le nucléaire, finalement, c'est dangereux et qu'il vaut mieux prendre son temps.
Mais non, celui-là, il n'est pas dangereux, il ne marche pas.
Bah oui, bah voilà. Bah voilà.
Celui-là, il est cool.
On aura appris quelque chose. Il ne marche pas, ça coûte cher.
Envoyez la virgule.
Non, dites donc, on vient moins bête de votre émission.
À suivre dans l'équipe est sauvage, selon une vilaine
c'est
rumeur.
C'est par respect pour vous que je ne l'ai pas épargné, Axel.
Évidemment.
Selon non, parce que une vilaine... là, il rigole. Il rigole plus que quand je l'interromps.
Ah, bah ça, c'est toujours.
Là, c'est méchant.
On rigole toujours plus.
Allez,
de l'autre.
Encore moins un pour aller.
Les amis, selon une vilaine rumeur totalement infondée, je serais nul en cuisine. Certains vont même jusqu'à affirmer que mes choix gastronomiques seraient à l'origine de mes déboires amoureux.
Tu les fais fuir avec tes gencives de porc.
Mais c'est délicieux, les gencives, c'est très bon. Bon, ok, je suis nul. Heureusement, tous les jours, pour vous sauver la mise, alors que, comme moi, vous aviez totalement oublié de faire les courses, il y a Delicine Extremis, la recette dernière minute qui vous sauve la mise. Et garantie, sans gencives de porc. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Qu'il est loin, le temps où les journalistes d'Europe 1 se voyaient en dehors du boulot, aller boire des canons au troquet d'en face. Désormais, par ma faute, c'est la guerre. Chaque après-midi, ils ne sont plus collègues mais rivaux au service de votre culture G. Qui vous offrira la meilleure chronique? Qui prendra la tête du championnat Europe 1? Vous votez via Twitter. Quant à notre invité d'honneur, sa voix comptera triple tout à l'heure. Normal, c'est notre grand arbitre du jour. C'est un immense acteur et un grand nom de l'humour. Sa carrière a explosé au début des années 90. Oui, Eva?
Mais oui, Bernard Montiel.
Ah non, Patrick Timsit.
Ouais, une voyelle près, hein, franchement.
Oui, mais disons ça. Patrick Timsit, vous êtes à l'affiche de J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache. Vous y incarnez le papa de Géraldine Nakache et de Leïla Bekti. Un rôle à la fois drôle, comme on sait que vous savez le faire, et émouvant. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes dans la vie? Vous dites, dans la vie, je trimballe une sorte de mélancolie qui fait que malheureusement, je peux être rabat-joie. Voilà, ça fait deux heures qu'on est ensemble. On ne voit pas à quel moment vous êtes vraiment rabat-joie.
Bah, il faut, faut vivre avec moi toute la journée. Vous verrez, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Bah ouais, non, mais là, je suis particulièrement démonté. Quoi. Je vous demande encore pardon. Hein. C'est exagéré. Mais je connais, oui. Moi, j'avais un papa qui faisait, d'ailleurs, qui est parti très peu avant le film. Alors,
ah oui, donc ça résonnait beaucoup.
Voilà. Et donc, l'émotion arrive et on est très embêté.
Mais d'ailleurs, Patrick Timsit, à propos de paternité, j'avais une autre question à vous poser parce que dans le film, on vous voit, vous êtes blagueur, vous improvisez bègue ou vous improvisez sourd et muet avec vos filles respectives pour leur faire des blagues. Est-ce que vous, vous en faites des blagues aussi avec vos enfants dans la vie ?
Oui, vraiment, là, c'est familial, quoi. Hein.
Ouais.
Mon père, déjà, avait un journal donc, pour pouvoir taper sur l'épaule des gens plus loin, vous voyez, comme ça, vous imaginez, pour que, évidemment, le petit con qui est derrière et qui embête tout le monde à taper sur les épaules, se fasse engueuler. Donc le petit con, c'était moi qui était derrière la personne. Et là, c'est vrai que c'est aussi de la pudeur. Moi, mes enfants, c'est terrible. Le jeu qu'on a, c'est la fart machine. Vous connaissez la fart machine ?
La fart machine, je ne sais pas, mais ça sonne bien
la
en tout cas.
La fart machine, donc la traduction, je vous laisse le soin.
Bah, je vais le dire, la machine à paix.
La machine à paix, ça se trouve sur Internet avec une télécommande.
Ah, non.
Donc on fait un petit jeu, celui qui perd met la machine à paix dans son pantalon au niveau de la ceinture derrière, et l'autre à la télécommande. Interdit de dire qu'on a perdu un pari. Non, mais sinon, on ne fait plus partie de la famille. Hein. Il y a des conséquences, hein, je veux dire. Et là, évidemment, l'autre à la télécommande. Et vous passez l'après-midi. Bon courage. Hein. Parce que moi, je peux vous dire que quand j'ai perdu et que mon fils me l'envoie au moment où vous lassez une chaussure, par exemple, vous allez faire des courses, essayer des chaussures, je vous jure. Et il y a... et quand il déclenche ça, je me retourne et il y a un couple d'Asiatiques qui sont à la hauteur... Vous voyez, là, parce que je suis debout en train de lacer mes chaussures et il faut choisir le moment, c'est de l'art. J'ai vu des gens. Il y avait un régisseur en tournée quand, avec cette machine, avec Thierry Lhermitte qui me l'avait fait découvrir. Comme ça, je balance tout. Et dans le train, on mettait ça à quelques sièges, vous voyez, de nous. Et plaf, on envoyait ça. Et vous devez rester sérieux. Réception d'hôtel, vous voyez, bonjour, oui, j'ai ma clé de chambre. Là, on vous envoyait la télécommande. Et puis l'autre reste sérieux. En attendant la clé de sa chambre, je peux vous dire que ça, c'est voilà, donc, voilà le genre de blague qu'on voit. C'est plus moderne. Hein. Si elle avait existé, mon père me l'aurait imposé. Hein,
c'est presque vintage, mais c'est excellent. J'ai envie d'avoir ce petit boîtier pour m'amuser avec
Eva. Super méga
boom, hein,
avec des méga basses. Je vous jure, elle va plus loin, elle se dévisse et vous gagnez des décibels et de la profondeur, comment dire. Ouais, bah, je vais consulter.
Ouais.
Je vais consulter. Je vous lâche parce que moi après j'irai. Rendez-vous, hein. Chez mon débilologue.
Il est à l'affiche de J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache. Patrick Timsit est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage entre dans le Money Time. Nous connaîtrons bientôt.
Je me suis saoulé, je me supporte.
Vous êtes auto-saoulé.
Ah oui.
Mais nous, vous nous régalez. Nous connaîtrons bientôt le nom de celui qui sera sacré chroniqueur du jour. Mais à quoi vous servirez de connaître le nom du chroniqueur du jour si vous ne savez pas quoi bouffer ce soir ? Mes petits goulus, vous rêvez de surprendre votre conjointe avec un petit plat qui en jette ? Problème ? Comme moi, vous êtes des brêles en cuisine. Vous n'êtes même pas capable de réussir la cuisson des pâtes.
J'ai perdu toutes mes dents.
Oui, bah ça va Eva, elles étaient al dente, c'était bien. Heureusement, Delis in Extremis arrive chaque jour vers 6h moins le quart, une recette dernière minute pour épater vos proches. A tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue 2 heures pour alimenter votre gaieté, votre savoir, mais aussi, de manière plus prosaïque, votre estomac. Comme d'habitude, vous avez encore totalement oublié de faire les courses pour le dîner. Heureusement, voici le sauveur. Un homme qui sera un jour empaillé au Muséum d'Histoire Naturelle où les visiteurs pourront observer la curiosité anatomique qui fait sa force, un double foie. Cadeau de Dame Nature qui lui permet d'être devant vous aujourd'hui, tout fringant, alors qu'il nous avouait hier soir...
Je vais moi aussi me mettre minable.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour tout le monde. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Il y a des sons qui t'ont trafiqué, puis d'autres non.
Et je suis particulièrement d'accord. Il y a une ambiance extraordinaire depuis tout à l'heure. Et je sais qu'en plus, Patrick Timsit est un grand amateur de vin. Fait partie de ces acteurs grands amateurs et grands connaisseurs de vin.
Connaisseur, non, parce qu'il faut toujours rester humble. Mais je suis un grand connaisseur, oui. Non, mais c'est de la bonne vanne, ça. C'est un bon niveau, quoi. Je suis désolé.
Effectivement.
Hein.
Olivier Pouls, Delis in Extremis, qu'est-ce qu'on prépare ce soir en vitesse ?
Ben, vous savez, on avait évoqué les œufs brouillés avec une actrice, Sylvie Testu, la semaine dernière. Certains autour de cette table pensaient que des œufs brouillés, en fait, c'était une omelette qu'on avait maltraitée.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Ouais, alors que c'est pas ça du tout. Bien sûr. Alors, dans un instant, je vous explique comment
ça s'est réglé. Enchaîné sur un autre sujet, j'ai tout dit là.
Alors, est-ce qu'avant, vous savez lire l'œuf? Parce qu'avant, il faut choisir l'œuf et il faut savoir le lire.
Ouais, comment ça? En plus, il faut le faire tourner.
Non, pas du tout.
Ah, non, parce que ça, c'est ça pour savoir déjà s'il est cuit.
Alors, vous savez...
ça, déjà, vous le faites tourner. S'il tourne bien rond, c'est qu'il est cuit. S'il zigzag, c'est qu'il est cru. C'est pour éviter de le prendre cru sur le front.
Bon, si je vous embête pas, je veux bien vous dire comment.
Excusez-moi. Mais ils vivent le même calvaire.
Non, mais je sais, c'est terrible.
À l'écoute, quand on n'est pas concerné, ça fait rire. Et quand on est dedans,
c'est l'enfer.
Alors, c'est l'inverse de du rallye motocross, vous voyez. C'est-à-dire que celui qui est dessus, parce que celui qui regarde, ça pue, ça fait du bruit. Mais celui qui est dessus, il se marre bien. Bah, ça fait un peu ça. Moi, je me marre bien, mais ça pue, ça fait du bruit.
Nous, ouais.
Et c'est l'image. Hein, c'est l'image.
C'est pas l'image, c'est la paix, ça.
Du tout.
Ranger la machine
donc,
à paix, Olivier.
En ce qui concerne l'œuf, donc il y a un petit numéro sur l'œuf. 0, 1, 2 ou 3. Et c'est une bonne indication d'abord pour choisir ses œufs. 0, c'est un œuf bio. Et 3, c'est le pire, c'est un œuf de poule en batterie. Celui-là, on l'oublie complètement. Donc déjà, on prend un œuf 0, de préférence.
On évite la vexation. Ouais. Déjà, l'autre, la poule, elle est en batterie. Et puis, même son œuf, on n'en veut plus. Non, pour une mère, ce que ça représente. Vous vous rendez compte? Qu'on me tue, moi, mais qu'on ne veuille pas de mon enfant. Vous vous rendez compte? Non, mais psychologiquement, j'espère qu'il n'y a pas des poules en batterie qui vous écoutent, parce que là, il y a de quoi mourir. Là. Ah, c'est suicide.
C'est terrible.
Ça va se suicider en batterie, ça. Ça va se finir comment? Vous vous rendez compte? Bon, je veux pas d'un œuf. C'est mon enfant. J'en fous. Moi. Tu vaux rien, déjà, t'es en batterie. T'es cloué, t'as vu ta vie de merde.
La bonne nouvelle, c'est que la recette, elle s'explique très vite. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait le bain-marie, qu'on a bien battu nos œufs, donc bien mélangé le blanc et le jaune, qu'on a mis un petit peu de beurre, il faut surtout ne pas monter trop haut en température. La température.
Comme Patrick Timsit.
Exactement. À 64 degrés, le jaune coagule. Donc il faut éviter de monter au-dessus.
Moi, je suis
au-dessus. À 2008. Ouais. Il est coagulé depuis longtemps.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
C'est bon, ça. Sur Europe 1 à 11h. Le mec est plus sur terre. Du coup. Et ce que je conseille à nos auditeurs, c'est rajouter bien sûr de la truffe. Si vous n'avez pas de truffe, prenez du caviar. Vous faites vos œufs mouillés comme ça. Du caviar, c'est excellent.
Le pire dans tout ça, c'est que c'est exactement ce qu'Olivier Pouls me disait en antenne tout à l'heure. C'est ça qui est terrible.
Europe 1.
Le dénouement est proche dans l'équipe et sauvage. Dans une poignée de secondes, nous connaîtrons le vainqueur du jour. Malgré un week-end compliqué qu'il ne m'appartient pas de commenter, mais où la sangria a coulé à flot, Eva Rock tentera de surmonter sa migraine de lundi pour vous donner les résultats. Mais ça va, hein, Olivier, comment vous trouvez Eva?
Moins marqué qu'un tartare de bœuf.
Bon, dans sa bouche, ça doit être un compliment.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est le moment fatidique. Le moment où tout se joue et surtout leur prime de fin d'année. Ce moment où les journalistes en compétition aujourd'hui vont connaître leur classement. La pression est telle que certains ne sont même plus en état d'articuler. Pas vrai, Anne Le Gall?
Parce que maintenant, et surtout au Pôle Nord.
Oui, surtout au Pôle Nord. Oui. Quel sujet vais-vous préférer aujourd'hui? La poudre magique pour stopper la fonte des glaciers? Les déboires de la filière nucléaire française? Les manuscrits inédits des géants de la littérature? Ou encore les pratiques étonnantes des déchétariens? Les recycleurs de l'extrême?
C'est Pierre.
Oui.
Je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais garder les coquilles d'huîtres. C'est pour faire des cendriers.
Tenez, Josette, prenez la bourriche. Ça vous fera une jolie petite valise.
Mais comme quoi, ils étaient déjà en avance sur leur temps aussi. Découvrons d'abord qui vous avez choisi, Eva Rock. Le vote du public, s'il vous plaît.
À 33%, c'est pour Nicolas Caro et c'est pas une blague cette fois-ci.
Ah, Nicolas Caro, une victoire.
2 points.
Légitime pour une fois.
Merci,
c'est là, c'est quasiment la première. Je note 2 points pour Nicolas Caro. Pour ma part, j'offre mon point, car oui, j'ai 1 point à distribuer aussi. Anne Le Gall.
Oui, merci.
Anne Le Gall, mais dans cette émission, ce n'est pas moi qui décide, c'est notre invité d'honneur, Patrick Timsit. La responsabilité qui pèse sur vos épaules est immense. 4 CDI sont en jeu. Attention, alors, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour? Il faut choisir.
Je suis obligé de choisir.
Ah, obligé de choisir.
Ah non, non, vraiment.
Ah, oui. Vous
c'est impossible.
Points,
j'ai jamais choisi dans ma vie.
Moi,
j'ai
on
m'a toujours imposé, même mes femmes, même mes enfants. J'ai jamais choisi mes enfants. Moi. Quand je vois la tête de mes enfants, je dis, mais moi, j'ai pas choisi. C'est un enfant qui m'a été imposé. Non, parce que les enfants vous disent toujours, oui, on choisit pas ses parents, on choisit pas ses enfants. Faut le dire aussi, là. Bon, alors, voilà. Moi, franchement, je m'élimine. J'ai été lamentable. Je demande pardon à chacun parce que vraiment, le sujet était formidable. Je ne peux pas.
Vous vous
je ne peux
si,
pas.
Si, si, vous avez été formidable et vous allez choisir à la tête du client l'un des quatre.
Bah, la fonte des glaciers, quand même.
La parce fonte que des glaciers, c'est vrai, non, parce que incroyable.
Il faut s'y intéresser. C'est forcément, c'est le sujet. C'est important.
Je ne vais pas
m'excuser. J'ai pas à m'excuser, David. Vous, mais oui, c'est vrai. En plus, ça aurait été terrible parce qu'il est venu voir. Il voulait même fouiller dans ma bibliothèque. C'est vrai ou pas?
C'est vrai.
Le PR, ça va être 25 milliards d'impôts que vous allez payer. Vous allez voir que ça va vous intéresser. C'est moi qui vous aurais prévenu.
Je vais vous dire, Axel, avant qu'ils abandonnent le projet, j'ai le temps de mourir. Hein. Parce que le jour où ils abandonnent, ils avouent un échec. Ils le font jamais. Donc il faut du temps hein, quand même avant qu'ils abandonnent. Vous allez voir, si ça coûte 20 de plus, ils s'en foutent tant qu'on n'a pas accepté ça. Voilà.
C'était, les amis, la 26e édition de L'Équipée Sauvage, la plus foutraque, mais une des plus sympathiques
pardon
aussi.
Encore,
on
pardon,
merci
pardon.
Patrick Timsit d'avoir joué Désolé. Le jeu et plus que ça durant ces deux heures. Merci également à mes journalistes Eva Rock, Anne Le Gall, Axel de Tarlé, Anissa Mbida et mes bonnes fées en régie Claire Dutronc, Sébastien Bordenave, Romain Causeur, Philippe Armardeil. L'Équipée Sauvage revient demain 16h et en podcast à n'importe quel moment sur Europe 1.fr.